l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans Alem qui relâche la pression grâce à la soupape du nom de cette association dont on a fait la connaissance pendant le confinement. C'était vraiment le bon moment, vous allez comprendre. Ceci dit, j'ai l'impression que c'est toujours le bon moment pour la soupape. Avec nous, il y a Sandrine Collin qui est éducatrice spécialisée et animatrice nature, cofondatrice de la soupape qui est en direction collégiale, originaire de Telgru qui a baroudé en France et à l'étranger. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Et Céline Philippe, éducatrice spécialisée, cofondatrice et aussi dans la direction collégiale de la soupape. Elle a baroudé aussi en France et à l'étranger au cours de missions humanitaires et de voyages. Bonjour.
Bonjour.
Donc Sandrine Collin et Céline Philippe. Alors les soupapiennes et les soupapiens, qui sont-ils à part vous ?
Alors les soupapiens et les soupapiennes, pour l'instant, on les connaît surtout à distance, puisque du fait du démarrage de notre projet et de la situation actuelle, on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de les voir en direct. Pour l'instant, notre projet, c'est à terme d'ouvrir un lieu d'accueil et d'hébergement intergénérationnel ouvert à mixité des publics, avec des publics en difficulté qu'on accompagnera, et puis des publics qui viendront plus sur des temps de tourisme solidaire. Donc ce lieu-là n'est pas encore ouvert, mais en attendant, on a ouvert une ligne d'écoute téléphonique pendant la période du Covid. Et puis on prépare aussi la mise en place de groupes de discussion sur l'Aulne-Maritime. Et donc on attend avec impatience de les rencontrer en direct.
Donc là, vous parliez de vos publics, c'est-à-dire que les publics que vous rencontrez, vous les considérez comme membres de votre association, en fait, c'est ça ?
Oui, après on a aussi au niveau de l'association, nous on est 5.
Ah voilà, déjà. C'est ça.
Tous des profils un petit peu médico-social ou en tout cas psychologue, on a une psychologue aussi. Et on a aussi eu 2 bénévoles pendant la ligne d'écoute qui sont intégrés du coup l'association, une instit spécialisée et une psychologue scolaire.
Et les gens que vous recherchez, les profils que vous recherchez, c'est quand même des profils professionnels du médico-social à la base pour les interventions, enfin pour les écoutes. Ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas formé, mais que vous allez former ?
Pour la ligne d'écoute, c'est plutôt des personnes professionnelles qui sont en possibilité d'intervenir directement avec les compétences dédiées, puisque c'est les personnes qui nous appellent sont des personnes en fragilité, qui ont besoin d'un soutien immédiat et d'une écoute particulière, ce qui n'est pas forcément évident. Et comme ce n'est pas non plus le cœur de notre projet, on ne va pas prendre le temps de former des gens pour mettre en place ce travail-là sur le long terme.
Oui, parce qu'il faudrait du temps pour former à ce
oui.
type d'écoute.
Ouais. Oui, puisque écouter des personnes en fragilité, ça veut dire savoir entendre de la souffrance, savoir quoi en faire, savoir se protéger aussi de la souffrance des autres. Donc, ça prend du temps.
Et vous êtes vous-même salarié de votre association, bénévole, ou est-ce que vous avez un travail à côté ?
Pour l'instant, on est tous bénévoles de notre association. On a chacun un métier à part entière et donc on donne du temps pour monter le projet. Sinon, on travaille dans des institutions aussi, chacun de notre côté. Quoi.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi la direction collégiale pour votre association ?
Ah, ça, c'est parce que notre projet s'inscrit complètement dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans l'économie sociale et solidaire, on travaille sur la mise en commun, sur l'intelligence collective, sur comment on peut impliquer les personnes à différents niveaux, au niveau de la gestion des projets, au niveau de ce qui se met en place au quotidien. Et pour nous, c'est important de ne pas avoir un président, un directeur, etc., mais d'avoir une équipe qui réfléchit ensemble et qui trouve les meilleures solutions adaptées. Alors, ça demande plus de temps, au moins au départ. Ça demande de créer de trouver le fonctionnement de l'association pour que les décisions soient prises. Nous, on veut prendre des décisions au consensus. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas d'accord, on discute. Et il se trouve qu'on arrive toujours à se mettre d'accord. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais le pari, c'est de faire que le consensus ça soit possible, même sur des grands groupes. Et ça existe.
Et vous êtes combien dans cette direction collégiale ? 5 ?
Les 5
fondateurs, en fait,
oui,
et fondatrices ?
Les 5 fondateurs, ouais.
Et pourquoi vous avez eu envie de fonder la soupape ?
En fait, on a constaté qu'il y avait des besoins au niveau du territoire, en fait, qu'il y avait des personnes qui étaient en difficulté, des jeunes qui avaient besoin à des moments de pouvoir avoir un espace de répit, pour pouvoir un peu souffler, pour faire des activités. Et nous, c'est vrai que la soupape, ça part de notre cœur de métier aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a vu qu'il y avait des structures où il manquait en fait des places pour des personnes en difficulté, que ce soit adultes et adolescents. Et on a voulu essayer de proposer un projet sur un territoire qui est aussi isolé pour pouvoir répondre à des demandes de certaines collectivités, quoi.
Donc il y avait des carences, en fait, les institutions officielles ne suffisaient pas, ou les structures en place
Oui, on voit en fait que au niveau des collèges, par exemple, qu'on a rencontrés, ils constatent que, à proximité, il n'y a pas grand-chose pour des enfants qui sont déscolarisés ou pour des enfants qui ont besoin de sortir du cadre scolaire à un moment donné. Il y a des familles aussi qui auraient besoin de pouvoir avoir un endroit pour pouvoir héberger sur un moment leur enfant qui, voilà, pour pouvoir souffler aussi, des personnes autistes, pour pouvoir venir à la journée, faire des activités ou pour pouvoir juste se poser, quoi, être dans un espace et profiter aussi d'avoir des personnes, des professionnels compétents pour s'occuper d'eux et de permettre à leurs parents, à un moment donné, de pouvoir aller faire autre chose, quoi.
Et on a constaté des besoins également au niveau du public adulte. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent sur la presqu'île. C'est un endroit très, très riche qui fourmille plein d'idées. Il y a plein d'associations caritatives. Il y a le centre social qui touche des publics qui sont isolés ou qui sont âgés. Mais c'est des personnes qui ne sont pas formées au médico-social. Et on a échangé avec toutes ces associations-là et qui nous disaient « Nous, ça nous intéresse d'avoir un relais quelque part pour des publics que nous, on n'arrive pas à prendre complètement en charge. » Et donc d'être une maille de plus dans tout ce qui se passe sur la presqu'île pour répondre à des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui.
Parce que la spécificité du médico-social, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une dimension de psychologie en plus, c'est quoi exactement?
Oui, il y a le côté accompagnement psychologique et puis tout l'accompagnement social, mais avec une vision peut-être un peu plus globale de la personne. Ce n'est pas juste s'occuper de ses papiers ou quoi, mais c'est pouvoir prendre la personne dans sa globalité et faire des relais, par exemple, vers la psychiatrie quand il y a besoin. Ce qu'on a fait, par exemple, pendant le confinement, il y a des personnes qu'on a accompagnées pendant un moment qui n'étaient pas en mesure de faire des démarches vers la psychiatrie. Et la psychologue du service les a accompagnées petit à petit. Et c'est des personnes qui sont parties vers les réseaux de la psychiatrie ordinaire.
Si tant est qu'il y en ait quand même.
Voilà, et sur la presqu'île, il y a quand même c'est une zone qui est réputée grise par l'agence régionale de santé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de, il y a pas assez de services en termes de psychiatrie, en termes de médico-social, enfin, il y a pas beaucoup de monde.
D'ailleurs, c'est pendant le confinement qu'on avait fait connaissance avec vous, radiophoniquement, en tout cas à distance. Donc cette ligne d'écoute, c'est là que vous l'avez ouverte?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que ça a donné? Combien de personnes, en gros, vous avez pu suivre?
Alors, on a accompagné près de 11 situations, à peu près, sur le territoire de la presqu'île Aulne-Maritime, parce que du coup, c'est quand même assez ouvert. Et même, nous, la ligne d'écoute, elle était ouverte sur tout le département, si on veut, en fait. Tout le monde pouvait nous appeler. Et les situations étaient assez diverses. C'est vrai que c'est
Quand vous dites 11 situations, ce n'est pas forcément 11 personnes, c'est
non.
Ça? C'est quoi, par exemple?
Ça peut être des situations des familles.
Ah oui.
Donc, on a travaillé sur les liens parents-enfants. Il y a des personnes isolées qui avaient juste besoin de parler, d'être entendues, de pouvoir être rassurée sur la situation avec le Covid, là. Et c'est vrai que c'était assez diversifié. Certains, c'était, ils n'avaient pas le moyen de se déplacer pour avoir leur accompagnement au niveau psychologique d'habitude. Donc, de pouvoir avoir des billes pour être rassurée sur l'état actuel, sur la suite. Donc, on a mis ça en place au mois d'avril. On a continué pendant l'été. On est toujours actifs. Et je pense qu'il y a des gens qui ont été preneurs. Après, nous, ce qu'on a aussi fait, c'est de faire le lien avec les partenaires extérieurs. C'est-à-dire qu'il y avait des situations au niveau social où on était... on nous demandait en fait de nous déplacer. C'est-à-dire qu'il y avait des familles qui avaient besoin d'aide, besoin de souffler, qui n'arrivaient pas... avec leurs enfants, parfois dans les relations, plus la maladie aussi, le Covid qui était là. Donc, de savoir comment faire. Nous, on n'était pas forcément à même de se déplacer. L'idée, c'était vraiment d'être dans l'écoute. Donc, on s'est mis en lien avec l'UNAMIR sur Crozon, on s'est mis en lien avec les CDAS aussi de Châtelain, de Crozon.
Alors l'ULAMIR, pour rappeler juste les sigles, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'ULAMIR, c'est...
Le Centre Social de la Presqu'île.
Voilà, et CDAS, c'est Centre Départemental d'Action Sociale.
Oui, et
voilà.
Aussi le CLIC.
Alors, ah, le CLIC, c'est pour les personnes âgées, ça.
Voilà, c'est ça.
C'est lié au Conseil Départemental également.
Tout à fait. Donc l'idée, c'était de relayer à un moment donné quand nous, on ne savait pas exactement comment répondre à ces besoins-là. Donc ce qu'on a fait aussi en lien avec ses partenaires pour pouvoir répondre au mieux, en tout cas à la demande de ces familles ou de ces personnes. Et donc on a eu à se déplacer et on a dû intervenir aussi sur des situations pour un petit peu apaiser les choses. Et puis voilà, pouvoir échanger et permettre après qu'il y ait un suivi sur la suite aussi de ces personnes, comme on disait, hein, d'être relayées soit par des institutions en psychiatrie, soit par les CDAS et qui ont pris le relais à la suite de nos interventions quoi, sur cette période.
Avec l'école aussi.
Ah oui. Oui. Et les problématiques qui ont été des 11 situations dont vous parlez, c'était lié au confinement, vraiment, enfin, est-ce que le confinement n'était qu'un déclencheur, finalement, de situations difficiles? Qu'est-ce que vous diriez?
Il y a eu quelques situations qui étaient vraiment purement spécifiques, enfin, où le Covid a été vraiment un déclencheur par rapport à une peur nouvelle vu de la situation, du port de masque, de la relation avec les autres. Mais pour beaucoup, il y a un terrain déjà au départ qui est de fragilité, avec des difficultés soit dans la prise en charge des enfants, soit beaucoup de solitude et une situation d'isolement par rapport à la vie sociale, à comment je peux aller voir des gens. Et donc ça, c'est tout à fait sur le genre de situation sur lequel on est amené à intervenir. C'est-à-dire comment on fait du lien, comment on peut retrouver un lien social qu'on n'arrive pas à faire tout seul, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment faire réseau, quoi.
Oui, et puis il y a des gens qui sont isolés socialement, mais qui peuvent pas aussi, qui sont pas mobiles. C'est-à-dire qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur Brest ou sur Quimper, d'avoir un suivi psychologique et d'être accompagné.
Oui, confiné ou pas, ça change rien.
Ben oui, et en fait, du coup, c'était aussi ça. C'est-à-dire que nous, on a fait un relais à un moment donné pour la suite qui aurait peut-être pu se faire en dehors du confinement. Mais là, ça a peut-être permis de déclencher ça, de pouvoir aussi donner des contacts, des coordonnées de personnes qui peuvent être mises en lien. Parce que c'est vrai que sur la presqu'île Aulne-Maritime, au niveau suivi et en soins santé, ça reste quand même compliqué pour certaines personnes.
Et à l'inverse, quand on est arrivé en déconfinement, il n'y a pas eu de retombée, du soufflé, entre guillemets. Est-ce que les...
Si, pour certains, la peur de sortir.
Oui.
On n'avait plus le droit de sortir et maintenant on va sortir et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'école? Est-ce que mes enfants ils sont en sécurité? Et comment ils vont attraper ou pas attraper le Covid? Et moi, je suis tout seule dans ma maison, mais alors maintenant, est-ce que vraiment je peux sortir? Donc, il y a tout ça qui est ressorti aussi. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu retombé. C'est retombé, mais je pense que c'est retombé peut-être à ce qui... Enfin, des situations qui restent toujours fragiles et qui existaient avant le Covid et qui sont de nouveau dans cet état un petit peu latent.
Alors, vous n'allez pas pouvoir rester indéfiniment uniquement en téléphone, enfin, même si ça va continuer, la ligne téléphonique, je suppose, enfin, l'écoute téléphonique.
Oui, tout à fait.
Vous avez c'est toujours les mêmes horaires? Parce que moi, j'ai de 8h à midi du lundi au samedi et de 20h à 22h le jeudi. Est-ce que c'est ça toujours?
On a changé, du coup, la ligne, elle est le mercredi de 8h à midi et le jeudi soir de 20h à 22h.
Avec le répondeur qui est disponible en permanence si jamais vous voulez appeler pendant qu'on n'est pas là.
Et le téléphone, on le redonnera, mais on le donnera sur le site internet de Radio Évasion, parce qu'en radio, les téléphones, on sait que ce n'est pas facile. mais en fait, c'est pas quand même la soupape n'a pas été créée pour faire de l'accueil téléphonique. La soupape, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, a été créée pour un vaste projet, un grand projet. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez développer cette fois? Alors, je ne sais pas, c'est Céline, Philippe ou Sandrine, oui. Colin, ouais.
Donc notre projet, en fait, ce qui nous a réunis au départ, c'est de créer un lieu sur la presqu'île de Crozon qui permette un accompagnement spécialisé pour des personnes en difficulté, mais un lieu qui ne soit pas une institution fermée. Et donc, on est arrivé à se dire qu'on allait faire un lieu ouvert à tout public, avec du tourisme solidaire et de l'échange au niveau d'activité sur un lieu qui se veut un bel endroit qu'on n'a pas encore, mais avec un espace paysager, probablement un petit potager, des petits animaux, etc. Où il y aurait donc une partie accompagnement spécialisé pour des publics en difficulté, majeurs et mineurs.
Mais accompagnement de journée.
De jour et de nuit.
Ah, voilà. Il y aura un hébergement.
Il y aura un hébergement temporaire. Alors, pas un gros effectif. On est sur deux accompagnements temporaires avec hébergement pour deux mineurs. Et puis, on est autour de quatre pour les adultes, avec quatre cellules familiales, on va dire. Et à côté de ça, on veut qu'il y ait des personnes qui puissent venir à la journée. Pareil, sur un petit effectif aussi pour l'accompagnement spécialisé, mais que ce lieu-là puisse recevoir des personnes qui viennent faire du tourisme solidaire dans des hébergements insolites.
Alors, ça serait quoi du tout ? C'est quoi faire du tourisme solidaire dans ce cas-là ?
C'est-à-dire qu'on sait qu'en venant à la soupape, c'est que on va être hébergé du coup sur un lieu un petit peu atypique où du coup on sait qu'en venant il y aura forcément du monde qui va être là en journée, donc des personnes qui peuvent être fragilisées, adultes ou enfants, voilà, avec peut-être des troubles. Et tout en étant sur un lieu un petit peu atypique, parce qu'on veut mettre en place des roulottes, un carter.
Un carter, ça c'est une maison en terre. Faut absolument aller voir sur le site de Carter à quoi ressemble un carter. C'est une maison des barbes à papa quelque part.
C'est très beau. Donc voilà, les personnes, quand elles viennent, elles savent aussi que voilà, elles vont être aussi avec d'autres personnes et qu'elles vont pouvoir participer à des activités.
Oui, c'est la question que j'avais posée, parce que ce n'est pas le tout d'être hébergé, mais voilà, elles participeraient, si elles veulent.
Oui,
voilà.
Si elles veulent, elles peuvent participer à des activités, elles peuvent manger aussi avec nous, proposer elles-mêmes si elles ont envie des activités. Voilà, c'est aussi un échange, en fait. C'est vraiment l'intérêt, c'est d'échanger, de partager, de rencontrer des personnes avec qui on ne serait pas tous les jours, quoi. Peut-être de donner du temps ou non. Et sur un lieu, voilà, assez atypique, où des personnes vont se rencontrer là et ne le feront pas sur d'autres endroits. Quoi.
Il y aurait combien de places pour le tourisme solidaire ?
Alors, il y a un gîte de groupe qui pourrait accueillir 14 personnes. Et après, sur les emplacements insolites, on est plutôt sur une dizaine d'espaces. Quoi.
Et ça vous permettrait aussi de dégager un revenu pour faire fonctionner l'endroit, je suppose ?
Enfin, voilà, c'est là aussi qu'il y a la solidarité. C'est que les gens qui viennent là savent aussi que leur participation, enfin le paiement de leur accueil de tourisme sert aussi à financer une partie de l'accueil solidaire.
Une partie, parce que vous avez besoin d'autres financements. Ça sera essentiellement des subventions, des appels à projets, c'est ça ?
On va être sur les deux tableaux, c'est-à-dire chercher des subventions auprès des partenaires comme la CAF, qui nous soutient déjà, le Conseil Général, l'Europe, la communauté de communes, tous les fonds publics qui sont en lien avec la solidarité sur différents aspects et le tourisme. Et puis, on va aussi voir au niveau des grosses fondations pour avoir des soutiens. Quoi.
Et ce type de lieu me paraît à moi extrêmement original, mais est-ce que peut-être que ça existe ailleurs ? Vous avez été chercher des inspirations ailleurs, peut-être ?
Alors, sur le département, il y a des lieux qui existent avec des spécificités, c'est-à-dire une partie où il peut y avoir des personnes fragilisées accueillies sur un lieu avec un espace paysager, mais après un lieu réellement comme le nôtre, ça n'existe pas. Après, on a été
et en France ailleurs, ouais.
On n'a pas trouvé.
Ouais.
On a trouvé des lieux de répit comme ce qu'est la soupape, hein, un lieu de répit, mais sans la partie tourisme solidaire, ouais. Ou alors du tourisme pour des adultes autistes ou du tourisme pour ci ou ça. Et nous, on veut vraiment que ce lieu-là soit un lieu de mélange et de mixité pour aussi dédramatiser le fait de se rencontrer entre personnes différentes et se rendre compte que on peut tous apporter quelque chose et se soutenir.
Mais ça peut fonctionner, ce tourisme solidaire, ça... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent être motivés par ce type de tourisme ?
Oui, et je pense de plus en plus. Ouais. Parce qu'on est quand même dans une époque où on se rend compte que ce qui est important, c'est l'humain et c'est le fait de se soutenir. Enfin, sur la presqu'île, il y a pas mal d'associations qui fonctionnent sur de nouvelles valeurs, sur des valeurs de transition, des valeurs d'échange. Et oui, je pense que ça peut...
Parce que souvent, on pense tourisme solidaire international et il y a un côté quand même attrait d'un pays étranger, d'exotisme, en plus de la solidarité internationale. Mais là, c'est vrai que c'est, quelque part, c'est assez nouveau l'idée d'un tourisme solidaire en France.
Oui, après, au départ, on pensait que Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, c'était des organisations humanitaires qui devaient travailler qu'à l'étranger.
Oui, voilà,
et
par exemple.
Se sont énormément développées en France parce qu'il y a aussi des situations dramatiques en France.
Bah, la solidarité de proximité, je crois que c'est important de mettre ça aussi en avant. Et puis en plus, on a un territoire quand même qui est riche.
Qui est attractif, ça.
Voilà,
on
et
qui est attractif.
Donc après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même du monde qui vient de plus en plus en Bretagne et encore plus dans le Finistère et cet été sur la presqu'île de Crozon. Donc on se dit qu'on a peut-être une carte à jouer. Et puis je pense que à un moment donné, on espère aussi que les gens vont prendre conscience que si on y met chacun du sien, à un moment donné, on pourra peut-être s'entraider parce qu'aujourd'hui, ça reste compliqué de vivre ensemble, on va dire. Donc, on espère, nous, que des personnes puissent venir aider et puis voir aussi que même si l'inconnu, des fois, fait peur, en fait, c'est pas si compliqué que ça de vivre ensemble et de pouvoir donner un peu de son temps et puis de participer à une bonne action.
Donc et de s'enrichir.
Ouais, c'est vrai. Et donc pour ce tiers-lieu, vous cherchez un lieu en fait.
Tout à fait.
Et ça, oui. Ça serait à l'horizon, quelle échéance est-ce que vous pourriez créer ce lieu ?
On voudrait ouvrir le lieu en 2023 pour l'accueil d'hébergement et accueil la journée.
Et en attendant, vous avez des projets intermédiaires beaucoup plus rapides, comme des groupes de parole, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Sandrine ?
On a répondu à des appels d'offres là en... avant l'été, donc du coup on a des subventions qui vont nous aider pour mettre en place un groupe de parole à partir du mois d'octobre. Donc on a des aides de la CAF et de la Fondation Crédit Agricole. Donc l'idée c'est de mettre des groupes de parole sur 4 sessions par mois, donc qui seraient adressées aux familles d'accueil, donc les professionnels, et aussi aux familles dans le besoin. Donc du coup un plutôt secteur de presqu'île de Crozon et l'autre plutôt sur le secteur Aulne-Maritime.
Oui, réparti géographiquement, en
voilà,
fait.
Voilà, pour pouvoir avoir accès à tout le monde et que tout le monde puisse venir facilement, parce que c'est vrai que le territoire est assez large. Donc, de pouvoir mettre une fois par semaine aux familles et une fois par semaine aux professionnels, une fois sur l'Aulne-Maritime et une fois sur la presqu'île de Crozon. Donc, on n'a pas défini exactement encore la ville. On a adressé des demandes aux différentes mairies pour avoir aussi des salles et pour pouvoir ouvrir ce groupe de discussion, d'échange, en tout cas sur des thématiques qui vont être proposées aussi en fonction des demandes des personnes.
Les familles d'accueil, ce sont des familles qui travaillent pour le département, c'est ça, hein, qui accueillent. Là, vous pensez familles d'accueil plutôt pour des jeunes ou pour des seniors ou peu importe
Ça dépendra du public qui vient. En fait, là, on est encore dans l'économie sociale et solidaire et la gouvernance collective où nous, on propose une idée de base qui est le fait de discuter en groupe. Et après, les sujets vont dépendre aussi un peu de ce qui va se passer dans le groupe et des sujets qui nous sont amenés. Donc, ça peut être aussi bien des sujets plus sur les jeunes que des sujets plus sur les personnes âgées ou des sujets communs aux deux. Parce que le fait d'accueillir chez soi quelqu'un en difficulté, c'est pas simple au quotidien, donc il y a besoin d'aide. Mais ça, on le fait aussi en lien, on va discuter de ça avec les personnes du Conseil Général, parce que c'est aussi, au moins pour certaines, leurs salariés. Donc qu'on soit en accord avec eux et qu'ils sachent ce qu'on fait. Et puis on sollicite aussi les communes financièrement pour nous soutenir là-dedans et parce que ça fait partie aussi de la vie du territoire.
Et les groupes autour de la parentalité, c'est parce que vous avez repéré un besoin sur cette question
Alors en fait, sur l'ULAMIR, donc du coup le centre social, il y avait un besoin qui avait été repéré en lien avec la CAF aussi. Je crois qu'il y avait des demandes en fait. Des parents, de pouvoir aussi avoir un espace de parole, de pouvoir aussi être entendu sur des questionnements qu'ils ont au quotidien en rapport avec l'éducation, enfin la santé, le soin au niveau des enfants, mais aussi les familles d'accueil. Je crois qu'il y a des demandes aussi, même si le département assure aussi des groupes de parole, on sait, au quotidien. Moi, je sais que ça existe, mais du coup, il y a aussi ça, peut-être, parce que c'est vrai que étant loin de Quimper, de Brest, des fois, ce n'est pas toujours évident de pouvoir aller au groupe de parole qui est peut-être une fois par mois. Et du coup, peut-être de proposer un autre en plus sur un mois, ça peut être une facilité d'accès aussi à ces personnes-là. Quoi.
Ça serait pour octobre, ça, les groupes de parole. Donc très bientôt, en fait. Oui. Et vous allez répondre à l'appel à projet, au troisième appel à initiative du parc d'Armorique, m'a-t-on dit.
Tout à fait, parce que c'est un partenaire avec lequel on souhaite travailler. On sait qu'ils sont aussi intéressés par le projet et qu'on s'inscrit vraiment dans les valeurs du parc. Et donc, nous, on va répondre à leur appel à projet pour se mettre dans ce réseau-là aussi et de faire un travail en lien avec toutes les personnes du territoire.
On va vous remercier toutes les deux. On va remercier l'association La Soupape pour ses bonnes idées qu'elle met à exécution. Vous retrouverez toutes les informations et vous pourrez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Évasion. À bientôt.
À bientôt, merci.
À bientôt, au revoir.